La parole du jour avec le Père Willem.
Comme un hôpital de campagne.
Ce que le corps du Christ inaugure, c'est un nouveau genre de socialité. Une socialité qui est corporelle et simultanément eschatologique. Elle reçoit son être d'un autre, de Dieu. Elle est donc consciente de l'autre en son sein, de l'étranger et du pauvre, qui sont la personnification du Christ. Voyez dans Matthieu chapitre 25, versets 31 et suivants. Il n'y avait rien de nouveau dans le fait de former des associations de gens, pensant là la même chose, disons, et fondée sur des intérêts communs. Au temps de Jésus, il existait des associations dans tout le monde païen. Il y avait dans la société des cercles fondés sur un commerce particulier, celui des vendeurs de fruits, par exemple, ou des sociétés funéraires qui assuraient à chacun de leurs membres des funérailles décentes, ou encore des sociétés reposant sur le culte d'une divinité particulière. Leurs membres partageaient des repas donnant lieu à un sens de l'appartenance et même à l'amour fraternel. Si l'Église était différente, cependant, ce n'était pas parce qu'elle avait choisi de s'attribuer un terme explicitement public et politique, comme « ecclésia », par opposition à des mots comme « koinon » et « collegium » qui désignaient les associations, mais parce qu'elle transgressait les frontières sociales habituelles pour rassembler les femmes, les enfants, les esclaves, les juifs, les grecs, les riches et les pauvres, sans distinction aucune. À l'origine, il ne devait y avoir dans chaque ville qu'une seule église, une seule, présidée par un évêque, au lieu de nombreuses paroisses entre lesquelles les fidèles pouvaient se répartir. Oui, une seule paroisse, la cathédrale. L'assemblée eucharistique, par conséquent, rassemblait des gens par-delà tout en une sorte de division d'ordre naturel ou social. L'Église en vint à être vue comme une troisième nation, non seulement ni juive ni grecque, mais dépassant toutes sortes de divisions de classe, de sexe, d'âge, etc. Les actes des apôtres montrent d'ailleurs clairement que les relations économiques n'échappaient pas à cette abolition des barrières. On dit que les premiers chrétiens ne possédaient rien en propre, mais mettaient tout en commun, en faisant particulièrement attention à ceux qui étaient dans le besoin. Tel était l'idéal, en tout cas. Cette histoire est sans doute un peu romancée, comme le montrent les remontrances de saint Paul aux Corinthiens, dans sa première lettre. L'idéal n'était pas toujours mis en pratique. Cependant, le genre de personne collective que le corps du Christ faisait naître, se moquant à l'évidence des strates sociales, économiques et politiques, les évangiles ne sont ni ne prétendent être un livre d'histoire. Ce sont de grands laboratoires du souvenir religieux chrétien qui ont inauguré un nouveau modèle de communication littéraire inconnu jusqu'alors au monde classique, avec un rapport qui n'avait jamais été expérimenté jusque-là entre composition écrite et tradition orale. Et c'est précisément dans ces textes, à propos de la mort de Jésus, un thème de première importance dans leur stratégie narrative, que nous rencontrons, par exemple, Pilate. Nous découvrons surtout dans l'évangile de Jean, qui, parmi les quatre récits, est sans nul doute le plus proche de la réalité de la Palestine du 1er siècle. Pilate, c'est un nom que nous évoquons chaque dimanche dans notre credo à la messe. La mort de Jésus nous apparaît dans le miroir des quatre évangiles comme le point culminant de sa prédication et de son témoignage. Ce n'est pas un traumatisme qui interrompit un parcours, mais c'est un événement qu'il accomplit et le perfectionne en le projetant vers l'éternité. La réforme duelle, le Père et le Fils, du si rigide monothéisme biblique, commence à s'affirmer précisément dans cet épisode, tout comme le mystérieux rapport entre Dieu et le temps. Tandis que le dogme trinitaire que nous connaissons tous ne sera entériné que plus tard, tel un rappel de l'irréversible fascination exercée par le nombre 3 en Égypte, en Grèce et en Inde, et de son rôle central dans leur construction théologico-philosophique. Mais s'établit surtout dans cet événement et dans les moments qui le préparent, le noyau génétique de la théologie politique de l'Occident sur laquelle allaient ensuite commencer à travailler Paul et Augustin. En somme, c'est à partir de cette mort que commence véritablement le christianisme. L'ensemble de la tradition chrétienne associe sept noms au souvenir de la Passion. Judas, Han, Caïphe, Barabbas, Hérode, Antipas, Joseph d'Arimathie, Pilate. Le premier, l'apôtre traître, n'est qu'une figure de la mémoire dont l'existence n'est nullement attestée, et il en est de même pour Barnabas. Les cinq autres, en revanche, sont des personnages historiques, les grands prêtres sadducéens à la tête du Sanhédrin, le tétrarque de Galilée, le préfet romain de la province de Judée, et sans doute aussi Joseph d'Arimathie. Parmi eux, c'est toutefois à Pilate que revient le rôle principal. C'est lui qui prononcera le dernier mot quant au destin du prisonnier. L'évaluation de ce comportement, qui n'est déjà pas unique dans la mémoire chrétienne, ainsi que du poids qu'eurent sur lui les contingents du moment, a suscité tout au long des siècles des conflits, des déchirements incessants autour desquels se sont condensés et se condensent encore aujourd'hui des mondes d'idées et de valeurs. Nous sommes au croisement de deux religions capables de rassembler au cours des millénaires des ressources considérables, intellectuelles, morales, identitaires. Un point névralgique parcouru maintes fois par où allaient passer des siècles d'histoire, tempétueux et douloureusement sanglant. À qui devrait attribuer la responsabilité de la crucifixion? Aux Juifs, le peuple déicide de l'intransigeance chrétienne, ou aux Romains? Quel fut donc le rôle de Pilate? A-t-il été un despote? Un complice? Un incapable? Pilate est le seul personnage historique qui nous soit connu grâce à des sources étrangères à la tradition proto-chrétienne. auquel la mémoire évangélique attribuait un dialogue avec Jésus. Eh bien, la figure de Pilate est tellement importante que nous en parlerons dans une prochaine émission.